Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Bon, vous êtes un peu un habitué d'ailleurs de notre antenne. Donc bien, bon retour avec nous. Le 02 62, je le rappelle, 02 62 2 3 4 5 6 7 est ouvert pour toute question. Et ma première question, Jean-Yves Rochou, est-ce que la crise économique pointe le bout de son nez réellement? Est-ce qu'il va y avoir une crise ajoutée à la crise sanitaire que nous connaissons déjà?
Oui, ça paraît tout à fait certain. Les prévisions, bien sûr, qui sont faites ne sont pas forcément celles qui vont correspondre à la réalité. Mais il est évident qu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle avec une crise, une récession qui peut être de l'ordre d'une réduction du produit intérieur brut de 8 ou peut-être 10, peut-être voire 15%.
Et concrètement, on sait que quand le produit intérieur brut réduit, eh bien la croissance fait la tête, hein, c'est un petit peu l'idée.
Et quand la
croissance fait la tête, eh bien l'emploi aussi.
Oui, il va y avoir l'emploi. Pour l'instant, la chose est cachée parce que d'abord, on est toujours dans une situation un petit peu particulière, encore tout à fait spéciale. Tout n'est pas reparti, mais on a le chômage partiel. Mais lorsqu'on va arrêter d'utiliser, ou on ne pourra plus utiliser de cette façon le chômage partiel, on va se retrouver sans doute avec un chômage beaucoup plus important.
Et donc, évidemment, une reprise économique qui va être lente. Nous sommes certes le premier jour du déconfinement, mais rien n'est joué à ce stade.
Non, bien sûr, parce que on ne sait pas du tout ce qui va se passer. La reprise, au début, un certain nombre d'économistes pensaient qu'on aurait ce qu'on appelle une reprise en V, vous savez, c'est-à-dire qu'on descend et on remonte immédiatement. Certains secteurs pensent d'ailleurs que c'est ce qui peut se produire. Je relisais quelque chose sur le commerce automobile, par exemple, certains observateurs, dont certains syndicats, disent que la reprise automobile pourrait être pratiquement immédiate. Mais en fait, globalement, ce ne sera pas du tout ça. La reprise va être sans doute assez longue. Certains disent jusqu'à la fin de l'année, peut-être voire l'année prochaine, et sans doute aussi difficile. Et puis, est-ce que finalement, au bout de la chaîne, déjà, c'est le seul premier problème, est-ce qu'il y aura véritablement des clients? C'est la difficulté. On a un problème de revenus, sans doute, et puis peut-être aussi un problème de crainte pour l'avenir qui va faire que les achats risquent d'être moins nombreux que ce que l'on pouvait imaginer.
Donc une baisse de pouvoir d'achat certaine. Il y a quand même la reprise générale, mais qui va être encore marquée des stigmates du confinement. Les aides ne vont pas se poursuivre éternellement aussi. Alors, cette question, est-ce que, selon vous, le dispositif de l'État mis en place, là, dans le cadre de ce confinement, a été efficace pour sauvegarder un maximum d'entreprises? C'était suffisant, à première vue?
Là, on ne le saura qu'après. Hein. C'est la blague habituelle. C'est uniquement lorsque la mer baisse, en fait, qu'on voit ceux qui ne portaient pas de maillot. Là, ça va être un peu pareil. Hein. On a un certain nombre d'entreprises qui sont en difficulté, qui ont reçu ou qui vont recevoir des aides, donc qui vont les aider, mais qui risquent, au moment de la reprise, de retrouver ces difficultés. Il va y avoir pas mal de charges différées.
Et donc, les charges dues quand même, c'est ça.
Oui, c'est le risque. Avec en plus des charges nouvelles, je disais, alors c'est un chiffre, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais pour la mise en place des conditions sanitaires pour travailler, par exemple, dans le secteur du BTP, un des membres d'un syndicat, je crois, disait qu'il fallait contrat entre 5 et 15% de coûts supplémentaires. Donc ça, il va falloir que les entreprises le payent. Donc elles vont commencer à se remettre en route, mais avec des charges nouvelles. Avec des travailleurs qui, du fait des nouvelles conditions, vont peut-être avoir une productivité un petit peu plus faible. Et puis surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'on aura comme client?
C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer finalement?
Oui.
Antoine Gélin nous a rejoint à l'antenne sur RTL. Oui. Et je rappelle, le 02 62 2 3 4 5 6 7 est évidemment ouvert pour toute réflexion à partager avec notre économiste Jean-Yves Rochou qui est à l'antenne.
Oui, Jean-Yves Rochou, quand plusieurs élus de collectivités locales ou des élus de certaines professions annoncent des milliers d'entreprises et des milliers d'emplois à La Réunion qui seraient potentiellement perdus, est-ce qu'aujourd'hui ce discours il est réaliste ou pas?
Je crains qu'il soit réaliste, oui. On a des entreprises. Alors, on a une situation au départ qui était un petit peu plus satisfaisante. Nous, on vient d'une période où le chômage diminuait très sensiblement. Puis là, maintenant, bien sûr, ce chômage va reprendre. Surtout, ce que l'on a, c'est qu'on a des entreprises qui étaient déjà en difficulté, puisqu'on avait une succession de crises entre les gilets jaunes et les grèves pour la retraite.
On peut même remonter à 2008, à partir de la crise financière de 2008.
Tout ça s'est enchaîné un petit peu pour nous, et il y a un certain nombre d'entreprises, ça ne se voit pas pour l'instant, mais il y a un certain nombre d'entreprises, bien sûr, qui vont être en difficulté dès que l'activité va reprendre. Paradoxalement, du fait des coûts supplémentaires de leurs charges différées, etc., elles vont avoir, et des prêts qu'elles ont pu contracter, elles vont avoir de grosses difficultés, et peut-être aussi des clients qu'elles n'auront pas. Oui, je crois qu'on on a un risque de crise assez important, même si on a des avantages. Ce qui peut peut-être nous sauver, paradoxalement, c'est ce qui, des fois, est un peu notre faiblesse. On a des revenus sociaux qui sont importants dans les revenus des ménages. Donc, ça veut dire que ces revenus sociaux, ils vont pas être diminués en tant que tels, individuellement. Donc, ça constitue un matelas que l'on va conserver, qui va sans doute, malheureusement, d'ailleurs, augmenter. Et puis, on a aussi, en fait, un secteur public qui est plus important qu'en France métropolitaine. Donc, c'est un avantage. Ça va nous servir aussi d'amortisseur, puisque ces revenus-là ont été versés, continueront à être versés de la même façon.
Et le rôle de la surrémunération, justement, des fonctionnaires
bien sûr,
à La Réunion
C'est sûr que ça, dans ce cas-là, c'est plutôt un avantage. Avec des fonctionnaires mieux payés, cet argent-là va permettre de faire tourner la machine, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en métropole.
Bien sûr. Vous dites la crise actuelle dans votre texte intitulé que vous nous avez fait parvenir, le confinement, l'économie, les futurs, trois petits points. Vous dites la crise actuelle est sans doute la plus violente que le monde ait connue, et c'est sa première crise totale. Comment dire, c'est un petit peu à courte vue, puisque quand on remonte quand même 70 ans en arrière, une crise extrêmement violente, on l'a connue, c'était la Deuxième Guerre mondiale, et c'était une crise totale. Et est-ce qu'on peut justement tirer des leçons? On a vu que derrière cette crise totale de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelque chose qu'on a appelé après les 30 Glorieuses, et avec des taux de croissance phénoménaux.
Oui, le problème, c'est que là, on est dans une logique de crise totale, puisqu'avec les confinements qui ont eu lieu dans une bonne partie, enfin dans l'essentiel du monde, en fait, on a un arrêt d'activité économique, ce qu'on n'avait pas connu même pendant les périodes de crise, et de crise, j'allais dire, liées aux guerres. Là, on est dans un cas complètement différent.
Vous parlez d'un effondrement de l'activité économique.
Oui, pendant au moins quelques mois et peut-être voire quelques années, on risque d'avoir une multiplicité de problèmes et une reprise qui sera beaucoup plus lente que prévu. Ouais.
02-62-23-4-5-6-7, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Jean-Yves Rochou, notre invité, il est économiste, invité jusqu'à midi. La dépendance de La Réunion aujourd'hui par rapport au reste du monde, elle est importante, suffisamment importante pour qu'on s'inquiète, puisque une partie du reste du monde n'a pas encore déconfiné, voire a déjà déconfiné, mais très inquiet sur une deuxième vague. Je pense à l'Asie, et je pense à l'info qui est parue ce matin sur Yuan, un premier cas à Yuan depuis plusieurs semaines. La dépendance aujourd'hui de la Réunion par rapport au reste du monde, elle est quand même encore très importante.
Oui, elle est très importante. On est très dépendant de nos différentes importations, mais on peut dire que pour l'instant, on a manqué de rien, sauf de produits liés à la santé, par contre. Donc, c'est peut-être pas aussi fort que ce qu'on imaginait, mais ça veut dire que à terme, sans parler de souveraineté, même pas de souveraineté alimentaire ou de souveraineté économique, on va être obligé, comme au niveau métropolitain d'ailleurs, de redispatcher un certain nombre d'activités qui peuvent être considérées comme stratégiques.
Oui, encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et l'intérêt aujourd'hui, je prends l'exemple des chasse-neige, par exemple. Vous savez qu'en métropole, parfois il y a de la neige dans le sud-ouest, mais on n'achète pas des chasse-neige pour autant, parce que les chasse-neige vont servir, je sais pas, pour la ville de Toulouse, une fois tous les quatre ans. Aujourd'hui, relocaliser des entreprises qu'on dit stratégiques, je pense aux masques, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à la Réunion, sachant que c'est les masques vont être peut-être utilisés tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans quand il y aura une nouvelle pandémie.
Oui, mais c'est ce que l'on fait déjà en fait pour un autre domaine qui est un domaine voisin, qui est celui des catastrophes naturelles. On a ici, par exemple, je crois que c'est la Croix-Rouge, hein, avec
et la Pirois.
Qui stocke un certain nombre de choses. Ça va sans doute servir dans la zone, on ne sait pas quand, mais c'est là. Et je pense que c'est la même chose.
Peut-être accepter d'assumer ce coût, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ben, on a aussi pour l'énergie, on a des stocks. On ne se pose même plus la question de savoir s'il nous faut des stocks. On les a, c'est obligatoire, et on s'en porte plutôt bien. Est-ce que ces stocks ont déjà, à La Réunion, est-ce que ça a déjà servi? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est complètement indispensable. Alors ça va être ça, oui.
Pardon, Jean-Yves Rochou, ça sera d'abord un choix politique et un changement de paradigme complet, puisque je prends par exemple l'exemple de la dengue ici à La Réunion. Il n'y a pas d'entreprise locale qui produit du spray. Il en faudrait, peut-être.
Oui, sans doute, oui. Je ne sais pas, c'est à voir au cas par cas, en fonction des problèmes que l'on rencontre.
Mais dans la mesure où il y a un intérêt économique aussi, quelque part, pour l'entreprise qui se montre.
C'est la collectivité qui va sans doute financer ces stocks que l'on doit constituer ou ces activités que l'on doit activer ou réactiver.
Ouais. Tout à fait. Il faudrait que la collectivité ait l'argent pour le faire aussi.
Oui, mais là, on n'aura pas trop le choix, parce que si on n'a pas la... Si on passe pas à cette solution, en fait, eh bien, au prochain cas, parce que visiblement on risque d'en avoir d'autres, on sera obligé d'appliquer ce que l'on a fait là, c'est-à-dire un confinement, qui est la formule sans doute qu'on pouvait pas éviter. On pouvait pas éviter parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. D'autres pays, finalement, quand même, ont placé des confinements, ont utilisé un petit peu ces confinements, mais moins que nous, avec de meilleurs résultats. Confinement, c'était sûrement pas la meilleure des choses, mais c'était la seule possible en fonction des moyens que la France et la Réunion avaient.
Dans ce cadre, c'est vrai que les entreprises ont su se renouveler finalement et ont fait preuve d'innovation, d'inventivité pour poursuivre leur activité. Est-ce qu'on va changer aussi de manière de travailler? Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas essentiel de changer sa méthode de travail aujourd'hui?
Oui, je crois qu'il faut intégrer, en fait, au niveau privé et au niveau public, en fait, il faut intégrer le risque sanitaire comme on a un petit peu intégré les risques naturels.
C'est absolument... Ou les risques terroristes même.
Oui, bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut ajouter ce que je disais dans l'article, en fait, il faut ajouter à la liste pour avoir un développement durable, il faut ajouter naturel, sanitaire. C'est absolument des risques qu'on ne peut plus négliger, simplement pour se contenter de se lamenter lorsque le malheur arrive. Quoi.
Alors il y a le risque sanitaire, il y a le risque en termes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est encore visiblement en plein dedans. Je reviens au thème dépendance par rapport au reste du monde. Plusieurs pays fournisseurs en matières premières, je pense à la Russie avec les céréales, je pense au riz en Asie. Et plusieurs pays ont commencé à dire qu'ils allaient fermer les vannes. Vous avez entendu ça comme moi. Quel risque, justement, si ces pays aujourd'hui, la Russie avec les céréales, l'Asie avec le riz, ferment les vannes, quel risque pour la Réunion?
De toute façon, dans le pire des cas, on sera tenu de changer de façon de s'alimenter. C'est peut-être aussi le problème. On a sans doute là, une façon de s'alimenter qui n'est pas tout à fait, indépendante. Il faudrait peut-être faire des efforts de ce côté-là, sans aussi exagérer, parce qu'économiquement, on a toujours le choix entre produire sur place ou avoir un stock, si c'est stockable, un stock sur place. Donc il faut trouver les bonnes solutions, et au cas par cas, je lisais il n'y a pas très longtemps un truc sur, je ne sais plus quoi, sur ce qui se fait au Kenya, là, sont des fleurs ou quelque chose comme ça, et le gars disait que finalement, on a meilleur compte à les importer qu'à essayer de les produire localement, c'était pour la métropole. même si on tient compte de la charge carbone et de ces choses-là. Donc il faut pas se précipiter. C'est peut-être pas évident de faire du riz, par exemple, pour notre consommation de riz à La Réunion. Oui. Il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Mmh. Même si pour un blocage qui était quand même assez important, on n'a pas connu de problèmes sérieux, je pense, sur le plan alimentaire à La Réunion.
Oui. Et intégrer peut-être la clause, comme vous le disiez, donc sanitaire, mais environnementale aussi.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça n'est pas l'occasion, puisqu'on se réinvente totalement ou presque, est-ce que ça n'est pas l'occasion de mettre l'appui aussi sur ce côté-là, de produire plus responsable est-ce que ça va marcher, surtout parce que ça n'est pas tout de se le dire. Peut-être que les entreprises y réfléchissent, mais se disent, bon, on verra peut-être demain, attendons d'aller mieux. Est-ce que c'est la bonne solution, quoi?
Le problème, en fait, c'est que effectivement, c'est sans doute la solution, c'est une façon de voir. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de, en fonction de la situation, il n'y a pas de chemin à tracer. Il y a le chemin qu'on va choisir. Alors, le problème, c'est de savoir ce que l'on va choisir. Ça peut aller des choix néolibéraux jusqu'aux choix, pour simplifier, écologistes. Les néolibéraux disent faut essayer de remettre en route l'économie, et si l'économie se remet en route, on précise pas trop ce qu'on va faire ensuite, mais si l'économie se remet en route, en fait tout pourra fonctionner à nouveau. Si on a une approche plus écologiste, on va dire oui, mais non, il faut pas oublier l'écologie, il faut pas développer à nouveau l'économie comme avant, dans le même sens. Il faut tout de suite utiliser de nouvelles contraintes, j'allais dire réglementations écologiques, pour aller cette fois dans le bon sens, qui sera une production, une activité, une consommation qui sera plus écologique.
Il y a les deux. Mais est-ce que ça rapporte tout autant?
Oui, et puis est-ce que les deux ne sont pas compatibles?
C'est ce que disent ceux qui sont dans une position centrale. Oui, de toute façon, les deux sont toujours ensemble. Le tout est de savoir quelle est la priorité. Pour certains, bien sûr, le cercle fonctionne plus de choix politiques ou d'idéologie que d'analyse purement économique. Ensuite, il y a ceux qui vont choisir en fait une approche plutôt économique, ceux qui vont choisir une approche plutôt écologique, et puis ceux qui vont prendre un mix. C'est la grande majorité. Mais c'est un domaine où il faut se méfier beaucoup, je trouve, parce qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de discours sur la partie écologique. Les néolibéraux, ils se font tout petits, ils disent pas trop ce qu'ils feront comme choix, mais ils le font. Et puis, de l'autre côté, on a des écologistes, et surtout des discours écologistes, et on a relativement peu d'actions ou de décisions politiques.
Et l'économie qui prend le pas. Vous pensez vraiment, pour reprendre votre texte, Jean-Yves Rochou, Ce sont finalement les 20 dernières années de la politique, par contre, qui a été menée au niveau national et voire même européen, qui a fait que la conséquence de cette crise est celle-ci aujourd'hui, que nous n'étions pas prêts et que certaines choses auraient pu être évitées si vous voulez l'économie dédiée à la santé, par exemple, n'avait pas été voilà, exactement.
C'est ce que disent des gens, d'ailleurs, sur les cités politiques, des gens de droite et de gauche. Il y a pas mal d'articles là-dessus maintenant. Ceux qui ont fait une histoire de la santé, il faut solliciter les historiens de la santé, montrent bien que dans le cas de la France, en fait, pendant plusieurs dizaines d'années, on a progressivement détricoté au nom de la réduction des dépenses publiques, et puis peut-être au nom d'un certain laisser-aller, j'en sais rien. Quelle que soit d'ailleurs la couleur du gouvernement ou du pouvoir, en fait, on a détricoté une politique de la santé. Et ça nous a amené à ce qu'on a actuellement. On voit bien qu'il y a des pays qui ont pu réagir. On pense, j'ai regardé un titre ce matin sur l'Allemagne, effectivement, les Allemands ont réagi beaucoup plus rapidement que nous, mais simplement parce qu'ils avaient déjà, en fait, les moyens en place.
Oui. Beaucoup plus de lits en réa, notamment.
Oui. Chez nous, on avait aussi un plan, je ne me souviens plus du nom du plan concernant la santé, mais un plan qui était, d'après les spécialistes, relativement bien fait. C'est qu'il n'a jamais été utilisé et il a été abandonné.
C'est un plan qui a été mis en place après les premières alertes de l'OMS au début des années 2000 et qui, en 2012, a été complètement oublié dans les cartons du ministère.
Oui, c'est il y a par exemple, je pense à ce que publie là en début d'année normalement le gouvernement avec des indicateurs de richesse nationale, là, ces indicateurs, en fait, il n'y a rien, je ne me souviens pas qu'il y ait quelque chose qui a à voir avec la santé. Par contre, on a en détail d'autres domaines qui sont intéressants aussi, mais la santé, non, ça a été complètement squeezé, ça a été considéré comme une source de dépenses.
À voir si les économies effectuées sur le dos de la santé, si on peut dire, a servi à financer d'autres choses d'ampleur, peut-être, je ne sais pas.
Oui, sans doute, mais c'était pas prudent, quoi, pour le moins. Oui.
Autre question, Jean-Yves Rochoux, oui. On parle beaucoup de la commande publique. Est-ce qu'elle va se positionner comme la sauveuse, finalement, des entreprises ou est-ce que l'État en aura la possibilité? On parle notamment de la commande publique pour sauver la culture actuellement, au-delà même du bâtiment. Il y a d'autres secteurs qui en bénéficient beaucoup et pour qui c'est essentiel. Est-ce que l'État va devoir vraiment prendre part à l'économie et nationale et réunionnaise aussi pour sauver la chose?
Je pense que oui. Bon, ce qu'il faudra à ce moment-là, c'est qu'on fasse, on aille dans le bon sens. Si on pense qu'il faut aller vers quelque chose de plus écologique, il faudra que ce soit intégré. Il faudra que cette commande publique intègre ces différentes composantes. Ça paraît tout à fait indispensable. Ça paraît tout à fait indispensable. Je ne sais pas ce qu'il en sera à la Réunion, mais je pense qu'on aura des besoins relativement importants. Le problème, c'est qu'il faut attendre aussi, je pense au bâtiment, par exemple, il faut attendre visiblement que les communes et les services qui travaillent sur ces problèmes de commandes publiques et notamment de commandes au bâtiment, en fait, reprennent leur activité normale. Je crois que le BTP, c'est ce qu'ils attendent en particulier.
Oui, bien sûr. 0-2-2-3-4-5-6-7, c'est la libre antenne. Nous sommes avec Jean-Yves Rochoux, économiste. Pour reprendre un petit peu le fil de votre analyse que vous avez publiée en fin de semaine dernière, j'ai l'impression qu'on part quand même de très loin. Ce que vous faites comme constat, c'est que dès le début du confinement, c'est-à-dire dès l'arrêt des activités économiques en France et à La Réunion, très vite la récession s'est installée.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est en sens que la crise est totale. Ça ne s'est jamais produit. On ne s'est jamais trouvé dans un cas comme celui-là. Et bien sûr, la récession allait de soi lorsqu'on avait, 30, 40 ou 50% d'un secteur économique à l'arrêt, même des secteurs qui étaient complètement à l'arrêt puisqu'interdits. On a forcément un espèce de détricotage de toute la chaîne des fournisseurs, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça va être relativement compliqué. Il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se mette en route, puisque votre chaîne d'approvisionnement, vous risquez d'avoir des fournisseurs qui ne se sont pas remis en route, qui n'ont pas pu se remettre en route, qui vont avoir de grosses difficultés. Et c'est ce qui va vous bloquer, alors que vous êtes par exemple dans une santé tout à fait acceptable sur le plan économique, mais ça ne vous permettra pas forcément de réaliser votre production.
Mais dans l'histoire de l'économie, c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou pas, ce genre de situation?
D'après les spécialistes, non.
Même après, une période de guerre mondiale comme ça, première
oui, et deuxième guerre mondiale. Oui, il y a toujours eu des activités qui ont fonctionné. Ça n'a jamais arrêté complètement l'économie. Là, on s'est trouvé dans un cas de pratiquement d'arrêt total, sauf quelques activités absolument essentielles. Oui, c'est ce qui fait que on a une répercussion économique. Alors oui, les chiffres vont de 8% au minimum, c'est le chiffre du gouvernement pour 2020, par exemple, de réduction du PIB à 10-15%, ça dépend après des interprétations qu'on donne.
Ce qui est énorme. On peut rappeler des chiffres moyens sur des années normales
Là, on était en métropole ou en France, globalement, on en était, je sais pas, 2% de croissance, oui. 1%, 2%, c'était assez faible. À La Réunion, on est plutôt à 3%, 4%, et là, on diminuerait donc de plus du double, voire du triple.
Ouais, donc là, on passerait à 8 points de
récession. Oui, mais même il faut faire attention, parce que ça a été signalé par l'INSEE il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai pour d'autres sources. L'INSEE dit que, par exemple, ces chiffres sont à considérer avec précaution, parce que c'est une situation nouvelle pour eux aussi, et qu'ils ont des difficultés pour réaliser leurs enquêtes, pour faire leurs relevés, pour recevoir les informations par courrier ou de recevoir les informations par par Internet. Et donc, ça veut dire que dans les mois qui viennent, en fait, les chiffres donnés, même les chiffres officiels, ceux de l'INSEE, seront à prendre un peu avec circonspection.
Oui,
et puis, le problème, c'est que les définitions ne correspondent plus à grand-chose. Un chômeur, depuis les deux ou trois derniers mois, un chômeur, normalement, pour un certain nombre de définitions, notamment la définition du BIT, c'est quelqu'un qui ne cherche pas de travail. Mais quand on est confiné, on ne cherche pas de travail. Enfin, on peut, mais ça va être difficile. Mais les définitions correspondent à une situation normale. Le fait d'avoir été en confinement et d'être toujours dans une situation un peu difficile, c'est pas une situation normale, classique.
D'ailleurs, à propos de chômeurs, je vous annonce qu'on aura en libre antenne avec nous le directeur régional de Pôle emploi. Ce sera mercredi à midi et quart. Et demain, on parlera des plages avec l'OPR, l'association de Jean-François.
L'océan Prévention Réunion.
Nativelle. Voilà. Vous appelez, vous faites d'abord un constat, autre constat, et c'est ça qui est intéressant, sans parler de changement des modes de consommation, vous parlez de changement en matière de consommation et de production. Là aussi, on l'a constaté tout au long de ces deux mois, notamment sur le drive, le développement du drive et des choses comme ça, des choses qui, selon vous, vont rester ou vont disparaître avec le déconfinement.
Je pense qu'elles vont rester parce qu'elles étaient déjà en route avant,
oui.
Mais c'était relativement confidentiel.
D'ailleurs, il y a une entreprise de livraison de restaurants, hein, de repas, qui s'est installée ici à La Réunion, tout le monde la connaît, qui s'est installée ici à La Réunion quelques semaines, finalement quelques mois même pas, avant le confinement. Ils ont eu le nez, hein, pour le coup.
Oui. Ben oui, c'est sûr, là, ils ont un avantage. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses de genre qui vont changer. Les pouvoirs publics pourraient accélérer ce genre de changement si on mettait, par exemple, plus d'informations, je pense, sur les produits et sur aussi les modes de distribution, parce qu'il faut faire un petit peu attention. Si on remplace, par exemple, une consommation de lait par le fait d'aller à La Réunion, ça serait un peu difficile, mais d'aller chercher, que tout le monde aille chercher son lait à la ferme,
sur
le plan écologique, ça va peut-être pas être très bon. Il vaut mieux laisser les camions faire, quoi. Donc, il faut faire attention, mais je pense qu'il y a des choses à faire, et l'État pourrait, par une réglementation intelligente, qui est toujours difficile à faire, hein, pour tout le monde, même pour l'État, sans doute accélérer, en fait, un certain nombre de processus qui sont plutôt des processus vertueux.
Alors, par contre, sur le système D, vous n'avez pas l'air d'être certain que tout ça va être pérennisé, que ce système D dans plusieurs domaines va être structuré pour devenir pérenne.
Oui, c'est-à-dire que vivre de son jardin, moi, si j'essaie de faire ça, je vais mourir de faim. Très rapidement, autour de moi, j'ai du béton, je ne suis pas le seul à La Réunion, donc c'est compliqué. Bon, le système D, ça peut donner peut-être, faut voir, ça dépend des formules qui sont mises en route, mais ça peut donner des choses intéressantes. Par exemple, si on relance l'idée dans la pratique de la garantie là sur la durée des produits, les produits de, je pense, électroménager, etc. Il y a peut-être des choses à faire, oui. Peut-être aussi si on facilite la réparation par des choses, des formules
plus locales.
Oui, il y a des choses, je pense, à faire. Peut-être que si on pousse ceux qui reçoivent, qui le font déjà, ceux qui reçoivent du matériel à non seulement le revendre, mais peut-être de faire des réparations, etc. Bon, il y a plein de choses à faire.
Il faut des politiques incitatives que certaines grosses entreprises vont avoir du mal à accepter, parce que l'obsolescence, elle est programmée, on le sait. Parce que sur certains objets, quand il y a un service après-vente, c'est la pièce de la marque qui fonctionne et pas une autre pièce. Voilà, tout ça, c'est aussi étudié.
C'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a peut-être là des choses à faire, aller vers effectivement des innovations qui soient un petit peu des innovations plus low cost. Peut-être qu'il n'y a pas que les start-up sur Internet, il peut y avoir d'autres choses plus simples peut-être, mais qui peuvent également nous rendre service. Mais c'est pas simple, ça se met pas en route tout ça d'un claquement de doigts.
Un chapitre de votre étude est consacrée à la reprise après le confinement. Quelle reprise après le confinement? Vous dites en gros qu'il va falloir être très patient. C'est comme pendant le confinement. La machine économique, je vous cite, risque de se remettre en marche assez lentement, assez difficilement.
Oui, ben c'est tout ce qu'on a souligné tout à l'heure. Là, il y a des points de vue. Alors, ça dépend surtout des secteurs. Il y a des points de vue très très différents. Il y a certaines productions qui sont plutôt industrielles disent que effectivement, on va devoir attendre quelques mois. D'autres disent, je pense au secteur automobile, j'ai vu ça, c'est un syndicaliste, je crois, qui disait ça, qui disait, en fait, quand on va lever le confinement, les consommateurs vont revenir et ça va repartir comme avant.
C'est pas évident, selon vous.
Non, ça me paraît un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres.
Alors justement, vous prenez l'exemple d'un secteur qui lui a souffert dès le premier jour, avant même le confinement. Hein. D'ailleurs, c'est le secteur de la culture, du spectacle, de l'hôtellerie-restauration, des bars et discothèques. En gros, vous dites que cette filière est à reconstruire, tout est à réinventer.
Ben oui, un petit peu, parce que on va d'abord avoir, après le déconfinement, il va y avoir toute une période où ils vont devoir s'adapter aux conditions sanitaires. Là, les conditions sanitaires sont assez drastiques, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'aller me faire couper les cheveux dans deux jours, par exemple. Ça paraît être une expérience intéressante. Mais je pense que ça va être compliqué. Ça change les coûts, ça change la façon de travailler et... Donc la reprise va être lente.
Ça change la façon de, ça change peut-être aussi la façon de voyager et de et d'accepter ici les touristes ici à La Réunion. Vous pensez
la filière tourisme, oui, c'est une filière qui risque d'être en difficulté. C'est déjà une filière qui était non pas en mauvais état, au contraire, mais qui était en train de se refonder, j'allais dire un petit peu sur un tourisme un peu différent. On dit qu'on est dans la logique de la fin du tourisme de masse. Nous, même si on n'a pas de tourisme de masse, on l'a regretté pendant longtemps. En fait, on est aussi tenu de changer notre type de tourisme. Le problème, c'est que maintenant, en fait, il y a toujours un maillon ou il y a des maillons qui manquent et il va falloir que tout ça se mette en route. Actuellement, bon, il y a des transports aériens. On a vu que les compagnies aériennes, il y en a un grand nombre qui ont de grandes difficultés. Après, il va y avoir à l'autre bout, il va y avoir les hôtels ou les modes d'hébergement nouveaux que les gens, que les touristes, nouvelles formules voudraient peut-être avoir, etc. C'est une chaîne qui est très longue. Alors, on vient de l'extérieur jusqu'à La Réunion et il y a beaucoup d'intermédiaires et ces intermédiaires, c'est un petit peu comme les chaînes industrielles mondialisées. Hein, et c'est très compliqué à remettre en route.
Ce que vous pensez en fait, c'est que finalement le tourisme va se réorganiser au niveau du local, qu'il y aura peut-être moins de pression touristique ici, par exemple à La Réunion, de l'extérieur. Je pense aux croisiéristes, et je pense aux métropolitains qui viennent passer leurs vacances ici, et peut-être plus recentrer sur le local. Encore une fois, en a-t-on les moyens et est-ce que le marché est suffisamment intéressant au niveau de La Réunion? Je rappelle qu'on est 850 000 et que voilà, on part pas tous les jours en vacances.
Ah oui, ici, c'est certain que ça risque de changer les données pour un certain nombre d'activités qui se trouvent au bout de chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le consommateur. Localement, je pense à beaucoup de petites entreprises, elles risquent d'avoir des difficultés. Bon, peut-être qu'elles peuvent se réorienter, mais ça va pas être simple. On peut avoir la consommation locale est relativement importante. Quand on prend les chiffres et qu'on regarde ce qui rentre et ce qui sort en matière touristique, je pense qu'on a au moins autant de tourisme que l'on fait à l'extérieur, nous, que de ce que dépensent les touristes ici à La Réunion. Donc ce sont des chiffres dont on parle pas beaucoup, mais qui existent et qui sont sensibles. Donc il y a quand même un marché, mais c'est pas le même, c'est sûr. Et il est peut-être aussi moins coûteux. Le marché local est peut-être aussi moins coûteux à susciter. C'est-à-dire du côté de la promotion, de ces choses-là, c'est peut-être plus simple de faire une promotion locale que de faire une promotion nationale ou internationale. Mais c'est vrai que ça doit être difficile, ça va être difficile pour un certain nombre d'entreprises.
Mais c'est clair. Vous parlez du tourisme, Jean-Yves Rochou, de la culture. On imagine donc qu'il y a des secteurs qui sont lourdement impactés par cette crise, d'autres qui s'en sortent plutôt bien. Au final, est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre économique? Voilà, les acteurs sont tous sur la même place. Et...
Oui, à titre de semi-blague, on pourrait peut-être quand même solliciter la complémentarité. Il y a au moins deux secteurs là, qui actuellement ne se plaignent pas et qui d'ailleurs font des fois des propositions intéressantes. Ce sont les secteurs des banques et des assurances.
Oui.
Banques et assurances, ils sont plutôt... ils sont même en métropole, ils sont plutôt même à la pointe d'un certain nombre de sujets. Je pense à l'assurance qui existe là pour un certain nombre d'entreprises en matière de perte d'exploitation et qui parfois peut être été étendu en métropole au phénomène épidémique, mais pas pour toutes les entreprises, pas par toutes les assurances. Il y a un certain nombre de banques qui sont banques assurances qui se sont positionnées pour dire mais nous on peut aider nos assurés pour étendre le risque jusqu'à la partie sanitaire.
Et il se trouve pourtant que ce sont les deux secteurs que vous citez, banque et assurance, les deux secteurs qui ont fait polémique tout au long de ce confinement. Beaucoup d'auditeurs nous ont appelés pour se plaindre soit de leur banque, soit de leur assurance. Voilà, c'est pas par hasard que finalement vous parlez de ces deux secteurs-là.
En métropole, en fait, je crois que c'est le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, bon, ils se suivent, mais c'est normal, ils sont forcément concurrents, qui ont proposé d'aider en fait leurs assurés qui auraient eu à pâtir d'un risque sanitaire. Bon, c'est intéressant sur le fond parce que c'est quelque chose qui pourrait être généralisé. Je pense que là, les banques et les assurances ont quelque chose à faire. Sur un plan ne serait-ce que symbolique, ça me paraît important.
Ça commence à être intégré la sécurité sanitaire dans leur plan banque assurance. Est-ce que c'est intégré aujourd'hui au niveau de la politique? Est-ce que les prochaines politiques, c'est ce que vous dites, après-demain, l'économie devra forcément intégrer la sécurité sanitaire?
Pour l'instant, on a la tête dans le guidon, mais c'est vrai qu'il faut commencer à lever la tête un peu pour voir où on va en fait. Parce que remettre l'économie en route pour remettre l'économie en route, bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc il faut intégrer ce risque sanitaire qui vient s'ajouter à d'autres difficultés, en marquant que la partie écologique et sanitaire est souvent liée. Et puis là, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir assez rapidement d'une situation de confinement ou de quasi-confinement, parce qu'on sait que c'est coûteux et pas que simplement sur le plan économique.
On vous entend un petit peu moins bien qu'au début de votre intervention. Voilà, merci.
Là, c'est mieux.
Oui, c'est mieux.
C'est moi qui bouge.
Jean-Yves Rochou, finalement, est-ce que la reprise économique se dessine autour de l'espoir que le Covid va disparaître ou est-ce que ça se dessine finalement sur le prisme qu'on va devoir vivre avec?
Lui ou un autre, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, on va devoir vivre avec, visiblement. D'où la nécessité, peut-être, de bien y penser. Mais il y a toujours la tentation, si pendant 10 ans, on n'a rien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je crois, en fait, on risque, il y a quelqu'un qui va nous dire, ah, mais là, on peut faire des économies. C'est la mentalité, j'ai rien contre les comptables, au contraire, on a besoin d'eux, mais c'est la mentalité purement comptable. Mais qu'il n'y ait pas une approche économique, politique, qui soit sérieuse. C'est un peu notre problème, mais ça, on l'a tous. Il est toujours difficile de faire des provisions et de stocker ce que l'on doit stocker. Moi, je suis relativement gourmand. Il y a un certain nombre de choses que je m'interdis d'acheter, autrement que ponctuellement, parce que je sais que faire des réserves dans ce domaine-là, c'est une formule désespérée et sans efficacité. Après, il faut adapter donc en fonction des besoins ce système de stockage. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu tristouné de dire que le futur de l'activité économique, enfin pour une partie au moins, c'est lié finalement à ces obligations de stockage. Mais je crois qu'on va être tenu, notamment en ce qui concerne la partie sanitaire.
Est-ce qu'en termes de consommation, vous pensez que ça va changer quelque chose? Est-ce que les gens vont moins, par exemple, commander de choses sur Internet à l'autre bout du monde et vont plus se rapprocher des commerces de proximité?
Je ne sais pas. Il est certain qu'on ne peut pas tout faire ici. On ne peut pas faire tout au même prix dans le monde entier. Le problème, en fait, c'est que il va falloir comprendre. Alors ça va nous changer de paradigme. Il va falloir comprendre que le prix, en fait, ça ne doit pas être l'unique
déterminant.
Oui, parce que les prix, en fait, il faut savoir ce qu'ils représentent. Si vous faites venir quelque chose de très loin, un produit fabriqué ou un produit soi-disant bio, par exemple, qui nous vient d'un pays, en fait, qui n'a de bio que l'étiquette, hein, ça, je crois que ça existe. Je suis pas un spécialiste du bio, mais je crois que ça existe. Il faut bien se dire que quand on le fait venir et qu'on l'achète ici, on l'achète pas à son prix. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de coûts qui sont pas compris dans ce prix de vente dont vous bénéficiez. Et c'est ces coûts cachés, en fait, qui posent problème. Parce que, par définition, un coût, il y a toujours quelqu'un qui va le payer. Dans le cas des produits qui sont fausses, en fait, ça va être les phénomènes écologiques négatifs, des choses comme ça, qui seront peut-être perceptibles quelque part ailleurs dans le monde, mais ça va être des coûts que quelqu'un va payer.
Et qui ont, forcément, ouais. Quand il y a un coût, il faut que quelqu'un paye.
Et oui, tout à fait. Et il y a plein de secteurs comme ça où les prix, en fait, ne représentent qu'une toute petite partie du coût. Je pense aux prix agricoles, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines industriels ou même des services, lorsqu'on utilise des services de pays où les salaires correspondent pas à un minimum, j'allais dire, vital, il est évident que le service que l'on paye nous pas cher, effectivement, il n'est pas assez cher. Mais on en profite. Mmh. C'est pour ça aussi que la mondialisation, c'est, j'allais dire, entre guillemets, à notre demande, à nous, que la mondialisation s'est autant développée, parce que ça permettait d'aller exploiter. Alors,
la Réunion a profité de cette mondialisation,
bien sûr,
peut-être
bien sûr,
un peu trop.
Comme tout le monde, oui. C'est tout à fait logique. Mmh. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une idée, je ne sais pas du tout si elle est applicable, mais c'est le fait de faire payer la consommation d'énergie que le produit, c'est la taxe CO2, en fait, à la frontière. Ce qu'a coûté le produit véritablement à produire à l'extérieur, on lui met une taxe pour compenser quand il arrive chez nous. Mmh. Alors que s'il avait été disons produit d'une manière normale dans les règles de l'écologie ou du social, en fait, il aurait dû être beaucoup plus cher.
Encore faut-il que pour qu'il y ait un équilibre, il faut que cette taxe soit acceptée par tout le monde, d'où cette économie politique économique mondialisée.
Ça relativise beaucoup nos discours sur la vie chère depuis un petit moment, quoi, c'est sûr.
Jean-Yves Rochou, je vous propose d'aller au standard où Luc nous attend depuis quelques minutes. Il voulait intervenir sur les aides régionales, je crois. Bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Bonjour à tous. Je n'avais pas compris que vous étiez avec un économiste. Mais ceci dit, je vais parler d'économie.
Ben oui.
Donc j'étais déjà intervenu il y a à peu près 10 jours sur votre antenne au sujet des aides régionales.
Oui.
Donc il y a une enveloppe qui a été mobilisée. En ce qui nous concerne, on est plusieurs associés, on a fait les démarches nécessaires. On a un code de suivi sur le site de la région, mais bon, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de versement, on ne sait pas. Avec la
DIRPIF,
avec le chômage partiel, on est informé régulièrement avec des agents. Ils nous appellent, ils nous disent ou ils nous envoient des messages. Avec la région, là, ça date d'il y a 5 semaines.